L'art de la pierre. L'art de la pierre.
L'art de la pierre.
Enquête des CM2 de Saint-Martin sur le minéral.
Produit par la médiathèque de Saint-Rémy-de-Provence.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de la pierre. Nous sommes à l'hôtel Mistral de Mondragon, le mardi 14 octobre 2025. Nous interviewons Laurence Caritou qui travaille au musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Nous allons vous expliquer la cause de la rénovation. Il y a l'humidité qui crée de la mousse et des champignons, la pollution qui abîme les murs et le temps qui effrite les parois.
Alors bonjour à tous. Bienvenue au musée des Alpilles. On va commencer cette visite par la découverte ou la redécouverte du bâtiment. Ce bâtiment, il a été construit en 1555 à peu près, donc à la Renaissance. Et ça a été, avant d'être un musée, un lieu où vivait une grande famille qu'on appelait les Mistral de Mondragon. Donc c'est ce qu'on appelle un hôtel particulier. On est aujourd'hui à l'intérieur du musée, mais on est dans un espace extérieur puisqu'on est dans une cour. Il faut juste que vous pensiez qu'à la Renaissance, quand la famille Mistral de Mondragon arrivait habiter là, on avait une rue qui passait. Donc quand on arrivait ici et qu'on levait les yeux, on savait qu'on était devant la maison des Mistral de Mondragon. Mais comment est-ce qu'on pouvait savoir ça, à votre avis? Regardez l'architecture.
Il y a des symboles.
Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce symbole, justement? Oui.
Trois trèfles.
Il y a trois trèfles, tout à fait.
Il y a un dragon.
Il y a un dragon. Vous vous souvenez du nom de la famille?
Le Mistral de Mondragon.
Mistral de Mondragon. Mistral, donc ils se représentaient eux avec les trèfles. C'était des propriétaires terriens, ils avaient des terres. Mondragon, bah, c'est facile, hein. C'est une ville du Vaucluse. Le monsieur qui est à l'origine de ce nom-là, il vivait là-bas. Et puis c'était un grand militaire, donc il avait choisi le dragon pour se représenter. D'accord.
L'art de la pierre.
Mais vous imaginez qu'en 500 ans, bah, le bâtiment il a beaucoup souffert. Qu'est-ce qui peut faire que la maison ou le bâtiment va s'abîmer?
La pollution.
La pollution.
Les pierres qui se détachent.
Les pierres qui se détachent, c'est ça que tu disais? Oui, très bien.
L'humidité.
L'humidité, c'est notre principal souci. Regardez là sous vos pieds, là. Alors selon où on est passé, la pierre elle n'a pas la même couleur.
Il y a du vert.
Il y a du vert. Alors à votre avis, ça vient d'où ce vert?
De la mousse.
C'est de la mousse en fait, parce qu'on sait très bien qu'il y a de l'eau qui passe en dessous. Donc il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont enlevé ce qu'on appelle les micro-organismes, à savoir qu'ils sont allés, alors des fois avec des outils comme le scalpel, vous savez tout ce que c'est qu'un scalpel, c'est pour normalement c'est les chirurgiens qui utilisent ça pour gratter un peu, ils y sont allés aussi avec des brosses à dents, des fois quand c'est trop fragile avec des cotons-tiges. L'idée des travaux qui ont eu lieu pendant une année, vous savez, l'année dernière, vous n'êtes pas forcément beaucoup venu au musée parce que on était fermé au groupe, en tout cas pas au public mais au groupe. Et du coup, tout le travail qui a été fait, c'était ça, remplacer les pierres qui étaient trop abîmées, resculpter des parties, mais aussi, on dit, mettre hors d'eau le bâtiment. C'est-à-dire que quand il pleut, on veut éviter que l'eau ne stagne trop dans la cour ou sur les divers endroits de ce bâtiment.
Quelle est la pierre qu'on a utilisée pour construire ce bâtiment?
Alors la pierre qui a été utilisée, comme tous les bâtiments riches, il faut penser qu'à cette époque, à la Renaissance, il y avait aussi des parties qui étaient en bois ou en pisé, donc ou en brique. Par contre, quand on était riche, on aimait bien utiliser la pierre, parce que la pierre, c'est censé durer dans le temps. Et donc, on va aller utiliser la pierre locale, c'est-à-dire le calcaire qui était extrait. Il faut savoir qu'à Saint-Rémy, depuis l'époque de Glanum, vous connaissez Glanum, le site archéologique? Donc, c'était une ville qui était d'abord gauloise, et puis influencée par des Grecs, et ensuite romanisée. Et bien, depuis cette époque-là, on utilise le calcaire local, avec des carrières, où on va extraire des gros blocs qui vont être taillés pour construire. Le calcaire, c'est assez tendre, mais il a aussi, en contrepartie, le fait qu'il va s'abîmer plus facilement. Et le calcaire, même si ça vient de l'eau, il n'aime pas trop l'eau, il n'aime pas trop l'humidité. Et donc, il y a des champignons et des algues qui vont se développer dessus. Et c'est ce qui le rend, vous voyez, il y a des endroits, même si vous vous appuyez, par exemple, Alexis qui est appuyé contre le mur, s'il va se lever, il va peut-être avoir un petit peu de poudre de calcaire dessus. Parce que c'est un peu le souci, en fait, de ce calcaire, c'est qu'il a tendance à devenir friable, on dit. Donc, c'est-à-dire à se transformer en poussière.
C'était
Raphaël,
Clara,
Lily,
Achille
et Rose qui vous ont expliqué la rénovation de l'hôtel Mistral de Mondragon. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez bien aimé. Au revoir.
L'art de la pierre.
Enquête des CM2 de Saint-Marcin sur le minéral.
Produit par la médiathèque de Saint-Rémy-de-Provence.
Bonjour, nous sommes 6 élèves de l'école Saint-Martin.
Agathe,
Margot,
Arthur,
Antoine,
Jack,
Elena.
Nous allons vous parler d'escalade sur les pierres et les roches des Alpilles avec la participation d'un professeur qui vous expliquera le concept et la manière de l'escalade. Nous l'avons rencontré le jeudi 16 octobre 2025 à la médiathèque de Saint-Rémy où nous avons pu échanger sur les différents lieux pour pratiquer ce sport sur les falaises.
L'art de la pierre.
Bonjour, je m'appelle Swan Del Corso et donc je suis moniteur d'escalade du club d'escalade de Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle Rock Alpille. Je suis aussi moniteur d'escalade indépendant, c'est-à-dire qu'en dehors du club d'escalade, je fais aussi des sorties avec des gens qui viennent comme ça de passage. Et donc ça s'appelle Alpille Aventure. Je suis aussi responsable fédéral de la maintenance et de l'entretien des sites d'escalade à Saint-Rémy en particulier.
Combien de sites il y a-t-il dans les Alpilles ?
Ça tombe bien parce que j'ai le topo d'escalade avec moi ici, donc on va les compter ensemble si vous voulez. Alors, il y a le site de Oreille, qui s'appelle les Civadières, il y a le site d'Aiguière, le site de Mouriès, le site d'Orgon, le site de Paradou, le site de Saint-Rémy-de-Provence, le site de Tarascon-Lalec, Fontvieille. Combien ça fait, tu as compté ?
7.
J'ai compté 7 villes, mais il y a des villes dans lesquelles il y a plusieurs sites. À Saint-Rémy-de-Provence, il y a 3 sites d'escalade dans la même ville. Il y a un site qui est au lac du Pérou, il y a un site qui est au Mont-Gossier, il y a un site qui est à Valample. Valample, peut-être que vous connaissez parce que souvent vous allez faire les initiations là-bas.
L'art de la pierre.
Quelles sont les roches qu'on peut trouver dans les Alpilles ?
La grande majorité des Alpilles, c'est le rocher gris que vous voyez à Saint-Rémy. C'est un calcaire. Il est de l'époque Crétacé inférieur. Ça fait longtemps, ça. Crétacé inférieur, c'est après le Jurassique. C'est-à-dire que c'est juste après les dinosaures. Le rocher qui est ici, à peu près à moins de 80 millions d'années, il est sorti de l'eau. Il était sous l'eau. Il s'est compacté, vous savez, il s'est sédimenté. Il a durci. Et le rocher qu'on a à Saint-Rémy, c'est à peu près le rocher qu'on a en majorité partout dans les Alpilles. Un autre qui est un peu célèbre, c'est le rocher des Baux, au Baux de Provence. C'est un calcaire de l'époque Miocène. C'était presque hier, c'était il y a moins de 5 millions d'années. C'est un rocher qui est très blanc, c'est un calcaire aussi qui est très blanc, et il est tendre. Comme il est tendre, ben, il s'érode. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du vent, de l'eau, ça vient éroder et ça vient fabriquer des formes qui ressemblent un peu comme à des statues, des sculptures naturelles.
Est-ce qu'on peut escalader partout et pourquoi ?
On va pas aller grimper sur une falaise sur laquelle le rocher est dangereux, il pourrait s'effondrer. Maintenant, escalader, c'est un peu comme marcher en nature. Bon, ben, vous pouvez rester sur les chemins, ce qui est une bonne idée, pour pas aller justement déranger les oiseaux. Mais disons que si vous êtes dans la colline comme ça, vous pourriez avoir l'idée de pouvoir gambader un peu partout. Il n'y a rien qui vous l'interdit comme ça, il n'y a pas de barrière. Maintenant, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, ma deuxième réponse, ça serait de dire qu'il y a bien sûr des endroits spécifiques sur lesquels vous pouvez aller escalader, où il y a des équipements particuliers pour pouvoir grimper. Et dans les Alpilles, en fait, il y a un nombre de voies exact qui est 1793 voies d'escalade. C'est beaucoup, hein ? Il y a une histoire, c'est un patrimoine, l'escalade, ici, dans les Alpilles.
L'escalade fait travailler quel muscle ?
C'est assez complet l'escalade parce qu'il y a tout ton corps qui est engagé. On va dire qu'il y a l'ensemble des muscles du corps qui travaillent. Mais en particulier, on va dire que bien entendu, les avant-bras, ils forcent beaucoup. Si on se dit qu'il faut avoir beaucoup de muscles sur les avant-bras ou sur les bras pour pouvoir escalader, en fait, c'est pas tout à fait vrai. il vaut mieux utiliser ses jambes en priorité et ses pieds plutôt que ses bras. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir un peu de la force dans les mollets et surtout de la technicité. Être techniquement bien placé sur ses pieds. Donc ça, c'est plus important que d'avoir beaucoup de force. C'est pas très grave de pas avoir de force. On s'en fiche un peu en escalade.
L'art de la pierre.
C'était
Agathe,
Margot,
Arthur,
Antoine,
Jack,
Elena.
L'art de la pierre, enquête des CM2 de l'école Saint-Martin sur le minéral.
Avec la participation de Swan Del Corso, moniteur d'escalade, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cela vous a plu. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices.
Enquête des CM2 de Saint-Martin sur le minéral.
Produit par la médiathèque de Saint-Rémy-de-Provence.
Voici notre épisode créé par Noémie, Adèle, Hugo,
Julia
et Amaury.
Avec la participation de Laurence Carretou du Musée des Alpilles. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025 au Musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence.
Le sujet d'aujourd'hui est le mas.
Nous allons vous faire découvrir comment des mas d'autrefois se sont transformées en de jolies maisons d'aujourd'hui.
Donc pourquoi les mas sont des grands bâtiments ? C'est parce qu'il y a une partie habitation, mais qui n'est pas forcément la plus grande partie du mas. Mais à côté de ça, il fallait pouvoir loger des animaux. Alors quels animaux on va pouvoir trouver quand on est dans un mas, justement, Clara ?
Des ânes.
Des ânes, effectivement.
Des chevaux.
Des chevaux, on en a un ici, en train d'être harnaché, oui.
Des cochons.
Des cochons, allez, on se fait toute la basse-cour, c'est parti. Des poules. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, les animaux, ils sont si proches des humains à l'époque ? Pourquoi ils sont dans le même bâtiment ?
Parce qu'ils aidaient les humains.
Ils aidaient les humains, et du coup, les humains, ils étaient très proches de ces animaux-là, hein, surtout du cheval, par exemple, qui était vraiment dans juste à côté de la pièce à vivre du mas, parce qu'on écoutait toujours si le cheval allait bien, s'il n'avait pas des coliques, parce que ça pourrait être catastrophique pour un cheval. Alors, on va regarder un petit film qui a été fait par une dame qui s'appelle Lorraine Dumont. Sur des gens donc, qui ont 70-80 ans maintenant, mais qui sont ces personnes qui ont, eux, vécu l'évolution entre le mas agricole et, pour certains, ils vivent toujours dans un mas, mais bien sûr, ils l'ont modifié.
Les façades sont crépies, avec du sable et de la chaux. Le crépi protège les pierres, protège la pénétration de l'eau, isole la maison, donc c'est absolument nécessaire.
Maintenant, ils reviennent à la pierre nue, alors qu'avant, ce qui n'était pas crépi, c'était ce qui n'avait pas les moyens.
L'art de la pierre. Quels matériaux sont les plus utilisés ?
C'est pareil, on va utiliser la pierre locale, le calcaire essentiellement, et des tuiles, donc là c'est de l'argile pour les couvertures, les toits. On se rend compte aussi que sur les masses, on voit bien sur cette photo, vous voyez, regardez les encadrements des pierres. Là, on va utiliser justement ce calcaire. Et puis des fois, pour les murs, pour les masses les plus simples, c'est du pisé. C'est un mélange de terre.
Pourquoi les masses sont-ils orientées vers le sud ?
Quand on est orienté vers le sud, qu'est-ce qu'on va avoir ?
La chaleur.
On va avoir la chaleur. Mais en été, comment ça va se passer ? Parce que chez nous, comment est-ce qu'on peut avoir moins de chaleur ? Et ça se voit, regardez, sur la photo qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a devant ce mas très important ?
Un grand arbre.
Un grand arbre, donc c'est un platane.
Il y avait deux platanes. Ça servait pour l'ombre, pour le bois, pour se chauffer.
Une année, on taillait l'un, l'année d'après, on taillait l'autre. Et ainsi de suite, ça faisait de l'énergie renouvelable. Vous voyez, c'est pas nouveau.
Aujourd'hui, on sait qu'à Saint-Rémy, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Dans la France aussi, mais à Saint-Rémy particulièrement. Donc, on a moins besoin de lieux de stockage, on a moins besoin de lieux pour les animaux. Aujourd'hui, avec le tracteur, de toute façon, les animaux, on n'en a pratiquement plus dans les fermes. Qu'est-ce qui se passe pour ces masses ? Quand vous n'êtes pas agriculteur, que vous avez cette grande maison, ça vous revient cher, ben vous allez la vendre. Ce qui est logique parce que vous n'êtes plus agriculteur. Vous n'avez plus besoin des terres, vous n'avez plus besoin de vivre dans des grandes maisons comme ça. Et vous les vendez. Et les gens qui achètent, souvent, c'est des gens qui ont un peu d'argent, qui ont envie de vivre en Provence, parce qu'il fait beau, parce que c'est agréable, parce que c'est joli, les paysages sont sympas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Ils ont envie d'avoir une vue dégagée, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont couper les arbres. Après, les masses, vous voyez, il n'y a pas de très grandes ouvertures. Mais eux, ils ont envie, ils sont venus pour le soleil. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Des
grandes fenêtres, d'accord ? Et donc, ils vont modifier un petit peu, déjà, la fonction du mas. Il ne va plus être utilisé pour l'agriculteur. Ça va être des lieux de vie. Et aujourd'hui, on a envie, c'est normal, hein, de vivre avec une belle salle de bain, d'avoir de la lumière, de pouvoir recevoir ses amis dans des grandes pièces. Donc, c'est vrai que les masses vont énormément évoluer. Parce que notre mode de vie aussi a changé.
L'Esprit du Mas, une exposition à voir au Musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence jusqu'au 14 juin 2026.
Merci de nous avoir écoutés sur notre sujet, le Mas. À bientôt.
L'art de la pierre.
Enquête des CM2 de Saint-Martin sur le minéral.
Produit par la médiathèque de Saint-Rémy-de-Provence.
Bienvenue dans ce nouvel épisode présenté par Ilona, Théodore, Valentin, Rachel et Alice.
Nous allons vous présenter l'exposition de Aurore Valade.
Visible jusqu'au jeudi 30 avril 2026 à la Maison du Parc des Alpilles.
Aurore Valade est une photographe, elle travaille et vit à Arles. C'est une exposition qui parle des pierres qu'on trouve dans les Alpilles,
de leur usage et leur légende.
L'art de la pierre.
Tac, c'est bon, ça enregistre pour tout le monde ?
Oui.
Allez, go, c'est parti. Bonjour.
Bonjour.
On vient voir l'expo d'Aurore Valade, merci.
Cette exposition, elle montre surtout des pierres, des minéraux qui ont été pris en photo.
On dirait qu'il y a des fossiles.
Des oursins célestes. C'est des oursins qui sont pas vraiment, vraiment dans la mer.
Bah, qui sont plus dans la mer.
Ils sont plus dans la mer. Ils sont sur les montagnes. Bah, c'est comme un peu à l'époque des dinosaures, on retrouve parfois des fossiles. Pour les auteurs chrétiens, ces vestiges marins sont les preuves tangibles du déluge biblique. En Provence, c'est leur origine céleste qui était l'explication la plus répandue. On les appelait les pierres de tonnerre. On les disposait alors sur des toits ou dans les murs des masses comme porte-bonheur, protégé de la foudre et apportant sécurité dans la demeure.
Oui, bonjour.
Bonjour Aurore Valade, nous sommes la classe des CM2
de l'école Saint-Martin à Saint-Rémy-de-Provence.
Pouvez-vous nous raconter l'exposition ?
Oui, donc c'est une exposition sur le thème des pierres qui a été menée avec le parc des Alpilles, en fait, sur le territoire du parc. Donc c'est une exposition qui traite des croyances, légendes et savoirs scientifiques autour des pierres dans les Alpilles.
Pourquoi vous travaillez sur ce sujet ?
Je m'intéresse aux pierres depuis assez longtemps. Je me promenais souvent dans les Alpilles, parce que j'habite pas loin, j'habite à Arles. Et du coup, j'étais fascinée par les pierres. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup aux objets, aux collections. Donc, je suis allée rencontrer des collectionneurs de pierres. Et donc, petit à petit, c'est un thème qui m'a passionnée.
L'art de la pierre.
Alors, il y a un caillou qui t'a marqué, toi ?
La variolite ou pierre de Picotte. Elle nous arrive des Alpes, descendue jusqu'en Croix par l'ancien fleuve qui était la Durance. Les bergers plaçaient cette pierre dans les sonnailles des brebis pour éloigner les serpents et pour les protéger des maladies comme la picotte. une variole animale.
Où avez-vous trouvé toutes ces pierres ?
Je suis allée partout dans les Alpes. Donc j'ai essayé justement qu'il y ait une diversité de lieux. J'ai de la bauxite qui se trouve autour des Baux-de-Provence, mais il y a aussi de la pierre du village d'Orgon. Donc je suis allée partout pour chercher la diversité des pierres. Et puis aussi, les galets de crocs servaient à beaucoup d'habitants à se chauffer les pieds, comme bouillotte.
Quelle est votre photo préférée ?
De l'exposition, alors c'est difficile à dire. Moi, j'aime beaucoup celle qu'on a choisie pour l'affiche, celle de la bauxite, parce que je trouve que c'est une pierre assez fascinante. J'aime beaucoup aussi une autre de la grotte Baldouin, qui est en très grand format dans l'exposition. C'est la plus grande, qui est sur un papier un peu brillant. Et justement, la grotte, elle est inondée de lumière, avec un aspect très doré. Et j'avais été assez fascinée par cette grotte.
L'art de la pierre. C'était les élèves de CM2 de l'école de Saint-Martin. À la maison du parc des Alpilles.
Pour l'exposition d'Aurore Valade.
Réalisée par
Ilona,
Théodore,
Valentin,
Rachel,
Alice.
Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.
Au revoir, au prochain épisode.
L'art de la pierre, enquête des CM2 de Saint-Martin sur le minéral.
L'art de la pierre.
Enquête des CM2 de Saint-Martin sur le minéral.
Produit par la médiathèque de Saint-Rémy-de-Provence.
L'art de la pierre. Bonjour, nous revoilà dans un nouvel épisode sur Antoine Serra. Nous sommes
Jeanne,
William,
Livio,
Andrea,
Eleni. Nous vous présentons Antoine Serra, qui est un artiste, peintre et graveur. Il s'est passionné pour les Alpilles et ses carrières et les a représentées en gravure et en peinture. Ses œuvres sont exposées au musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence. Nous avons rencontré Laurence Caritou, médiatrice au musée des Alpilles, le mardi 14 octobre 2025.
L'art de la pierre,
l'art de la pierre.
On va voir cette expo ?
Oui.
Allez, choisissez chacun une œuvre, vous allez la décrire un peu.
Ça représente une femme, une bergère qui garde des moutons. Antoine Serra a dessiné au crayon à papier.
Et après ?
La femme et la gravure.
C'est du cuivre en fait, c'est des plaques de cuivre. Et c'est des techniques de gravure, on dirait en taille douce. Donc où on va graver le trait et ensuite il suffit de mettre de l'encre, de faire bien rentrer l'encre dans le trait et de passer sous des presses pour pouvoir reproduire sur du papier ce qu'on appelle une estampe. Donc là, vous avez les matrices, donc qui sont les parties gravées, et ensuite l'estampe qui est à côté.
Moi, je trouve qu'il y a presque un côté manga, là, sur...
Oui, sur celle-là, il y a un côté manga.
C'est de là, ouais, sur...
Et les roches, elles sont formées un peu bizarrement. On dirait un peu des formes de cavernes. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est que... Ça, c'est un peu l'évolution du dessin. Au début, tu passes à ça, après il faut un peu plus détailler, après on fait les gros détails.
Pourquoi cette gravure-là te plaît ?
Parce que moi, je suis déjà allée dans les Baux, du coup, et j'ai déjà vu les carrières, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, comme j'ai vu ça en dessin, j'ai trouvé que c'était un peu réaliste, et du coup, j'ai dit que ça me plaisait. Ça s'appelle la pierre étoilée.
Et ça représente quoi, alors, cette pierre étoilée ?
C'est un fossile.
Un fossile, très bien, un fossile d'un animal marin. Quand on le trouve, il faut faire attention, on ne peut pas l'attraper comme on veut, parce qu'il a des grandes piques, des grandes aiguilles. Et c'est quoi ?
C'est d'un oursin.
C'est inspiré de ce qu'on peut trouver quand on se promène dans les Alpilles, donc de ces fossiles d'oursin. Qui ressemble à quoi ? Du coup, comment il appelait son exposition ?
La pierre étoilée.
La pierre étoilée.
Parce qu'il y a une étoile au milieu de l'oursin fossilisé.
Effectivement, ça fait comme une étoile, très bien. Et la pierre étoilée, c'est aussi le livre d'un monsieur qui s'appelait Charles Galtier. Et donc, Charles Galtier, il a écrit tout un ouvrage sur les baux de Provence. Et du coup, Antoine Serra a fait ce qu'on appelle les illustrations, c'est-à-dire les dessins.
L'art de la pierre.
Quand c'est qu'il est né ?
Alors, Antoine Serra ?
Oui.
Il est né en 1908. Il est né en Sardaigne, qui est en Italie. Il a beaucoup voyagé, donc il est parti de la Sardaigne, et puis il a été aussi après à Marseille, il est venu en France, se réfugier pendant la guerre notamment, et il s'est installé dans les Alpilles. Et donc il va peindre beaucoup dans les Alpilles à partir du moment où il s'y installe.
Comment les œuvres se sont-elles retrouvées au musée ?
Alors en fait, ce monsieur, il est mort en 1995, mais son épouse, donc sa veuve, elle s'est retrouvée avec tout ce qu'on appelle le fond d'atelier de son mari, c'est-à-dire énormément de peintures, de dessins, parce qu'un peintre, il fait aussi beaucoup de dessins préparatoires, d'accord ? Et donc cette dame, eh ben maintenant, elle est un peu âgée, elle se dit, mais le jour où je serai plus là, qu'est-ce qui va devenir de tous ces tableaux, de tous ces dessins ? Et elle a décidé de faire un don, alors pas qu'au musée des Alpilles, on est 4 musées, à qui elle a demandé de récupérer le travail de son mari. Donc il y a le musée d'histoire de Marseille, on l'a dit, pour tout ce qui est, quand il vivait à Marseille, sur l'histoire des dockers marseillais. Il y a aussi le musée Ziem à Martigues, parce qu'il a beaucoup peint la côte. Martigues, c'est pas très loin de Marseille aussi. Il a beaucoup peint la côte. Il a tout ce qui est en lien avec Venise aussi, parce qu'au musée Ziem, c'était un peintre aussi qui aimait bien Venise. Donc ils vont récupérer cette partie. Le MUSEM, qui est un grand musée de Marseille aussi, va récupérer toute la production des peintures qui ont été faites quand il était encore en Sardaigne, parce que le MUSEM, c'est un musée sur toute la Méditerranée. Et nous, au musée des Alpilles, on récupère la partie sur les Alpilles.
Merci Laurence.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
L'art de la pierre.
Merci de nous avoir écoutés sur notre sujet sur Antoine Serra.